entré donc en métaphysique, et cette année-ci, nous ferons un aspect de la métaphysique. Alors, je vous rappelle, pour avoir quand même une vision complète pour ceux qui commencent la métaphysique, la philosophie part, la philosophie d'Aristote, je dirais la philosophie tout court. Pour saint Thomas, Aristote, c'est le philosophe. Et pour nous, si nous sommes disciples de saint Thomas, c'est la même chose. Et c'est très important. Il ne dit pas la philosophie d'Aristote, le philosophe, disons. Pour saint Thomas, une philosophie ne peut être que réaliste. Alors ça, je crois qu'il faut en avoir la conviction. Il faut en avoir l'évidence. Il ne faut pas simplement dire, oui, saint Thomas dit ça, donc ça doit être la vérité. Et l'Église nous recommande, encore, avec le Saint-Père, que saint Thomas est le théologien le plus sûr, le plus fidèle à la recherche de la vérité. Alors, c'est très bien d'être fidèle à ce que Rome demande. C'est ce qu'on appelle ça une fidélité de notre sens catholique, de notre esprit catholique. Bon, ça, c'est merveilleux, ça. Mais, au point de vue philosophique, il faut comprendre que cette fidélité, elle est nécessaire au début. On ne peut pas commencer à faire de la philosophie sans avoir cette fidélité au point de départ. Et petit à petit, cette fidélité à la pensée d'Aristote, à la philosophie d'Aristote, devient pour nous une nécessité. Je comprends que la philosophie ne peut commencer, et elle revient tout le temps à cela, à ce qui est réel, à mes relations réelles, à mon expérience, une expérience de tous les jours. Tandis que les mathématiques, et je prends les mathématiques parce que, de fait, c'est les mathématiques qui sont la science suprême. Les mathématiques représentent ce qui, dans la science, est le plus parfait. D'où la très grande séduction des mathématiques dans un âge ou dans une époque où on est très positiviste, où on veut la science. Alors les mathématiques passent devant tout. Alors c'est très bien si on a déjà certaines connaissances mathématiques, qu'on les garde. Les mathématiques forment notre intelligence. Mais le danger des mathématiques, c'est qu'elles sont en pleine conformité avec notre intelligence. C'est la science la plus parfaite. C'est la science la plus évidente, la plus certitude. On est fait, étant donné notre intelligence liée à nos sens, liée à notre imagination, on est fait pour les mathématiques. Et alors l'attrait des mathématiques, c'est qu'elle est faite par l'homme. Et normalement, elle est faite pour l'homme. Sa finalité, c'est pour l'homme. C'est pas pour Dieu. Les mathématiques n'existeront plus dans le ciel. on fera le deuil des mathématiques facilement, parce que alors on verra la réalité. La réalité, c'est Dieu. Et devant la réalité, les mathématiques apparaîtront comme un jeu d'enfant. Parce que c'est vrai, c'est un jeu d'enfant. C'est une intelligence qui est heureuse d'être maîtresse d'elle-même et de pouvoir se perfectionner elle-même. Je crois que c'est très important dans notre monde d'aujourd'hui de comprendre cela, de comprendre la différence qu'il y a autre entre les mathématiques, les sciences et la philosophie. Alors, on met du temps, surtout si on est déjà très formé au point de mathématiques, très formé aux sciences, on met du temps à découvrir ce dépassement d'une intelligence qui cherche à connaître l'homme. Le mathématicien ne cherche pas à connaître l'homme. Il cherche à connaître les mathématiques. À connaître l'homme. L'homme dans sa sensibilité, l'homme dans son affectivité, l'homme dans son imagination, l'homme dans sa personne. Si on fait de la philosophie, c'est pour connaître l'homme. Et je sais que je ne peux connaître l'homme parfaitement que lorsque j'aurai compris la finalité de l'homme, ce pourquoi j'existe. Et dès que vous posez la finalité, tout ce qui n'est pas vraiment la fin de l'homme, ce qui ne doit demeurer éternellement, quoi. L'homme travaille pour quelque chose d'éternel. Parce qu'il est intelligent. Et que l'intelligence ne peut vivre qu'à l'égard de ce qui est nécessaire, de ce qui est éternel. Les seules connaissances qui demeureront éternellement, c'est les connaissances de la réalité. Donc, la réalité la plus parfaite que je connais autour de moi, avec moi, c'est l'homme. C'est moi-même et c'est mon voisin. Et c'est ça qui est intéressant en philosophie. C'est qu'au fond, toute la philosophie est faite pour connaître l'homme. Oui. C'est vraiment la question « connais-toi toi-même ». Et « connais-toi toi-même » qui est une question qui doit rester tout le temps à l'état très pur. Quand je connais les mathématiques, je ne me connais pas moi-même. Connais-toi toi-même. Alors on voit très bien l'importance très grande de l'amitié. Parmi les réalités que j'expérimente directement, il y a l'homme. Et tant que je ne suis pas son ami, je ne le connais pas. Je le connais de l'extérieur. Tandis que si je suis son ami et que j'ai la même vie que lui, c'est ça qui est très beau dans la vie religieuse. C'est qu'on a la même vie. Donc, on vit avec des hommes, une élite d'hommes. Oui, une élite d'hommes choisis par Dieu. Et il faut le voir, faut pas le dire trop haut, mais il faut savoir que c'est vrai. C'est Dieu qui forme une communauté. Ce n'est pas le fondateur. Ce n'est pas vous. Oui, vous faites partie des choses. Mais vous n'êtes pas à l'origine de la vocation de votre voisin. Si vous étiez à l'origine de la vocation de votre voisin, attention, ça ne durera pas. On n'entre pas en vie religieuse pour vivre avec un ami. Non, on entre en vie religieuse parce que Dieu le demande, parce que le Christ le demande. Donc c'est le choix de Dieu. Et c'est ça qui est la très grande force de la vie religieuse. C'est qu'on est devant une communauté dont le Christ lui-même se porte le témoin, garant cette communauté. Alors, Jésus a voulu que dans sa petite communauté qu'il a formée, les 12 apôtres, il y ait un Judas. Parce que vous ne pouvez pas accuser Jésus de ne pas avoir fait assez d'attention au choix des disciples. Vous ne pouvez pas. C'est que Jésus a commis une imprudence. Non, il n'a pas commis d'imprudence. Il a choisi Judas parce que le Père le voulait. Et Judas a été un traître. N'a jamais, au point de départ, sûrement, il a été disciple du Christ. À quel moment Judas n'a plus été disciple du Christ? Je crois que c'est au moment où Judas a jugé Jésus. Et l'a jugé ouvertement lorsque Marie-Madeleine a fait ce geste. L'évangile, je le connais parfaitement dans la foi, mais je peux connaître l'évangile aussi au fond du philosophique. Je connais un ami qui n'est pas croyant, mais qui aime beaucoup l'évangile, en disant « c'est le livre le plus intelligent que j'ai lu ». Parce que Jésus est un surhomme. Et il me montre la vie qu'il a eue. Et c'est vrai, humainement parlant, il y a une richesse énorme dans l'Ancien Testament, et surtout dans l'Évangile. Si la philosophie, c'est connaître l'homme dans ce qu'il a de plus profond, quel est l'homme le plus parfait? Au point de vue purement philosophique, quel est l'homme le plus parfait? Si on n'est pas un imbécile, on dit que c'est Jésus. Il apparaît vraiment comme un homme d'une perfection extraordinaire, qui a suscité des jalousies farouches, parce que l'humanité est comme ça. Dès qu'il y a des têtes, tout de suite, on jette dessus, comme des guêpes. C'est ça que nous apprend Jésus, hein. Il nous apprend l'amitié et il nous apprend les oppositions les plus violentes qui vont jusqu'à faire condamner officiellement Jésus, faire que, de fait, les Romains qui se disaient intelligents et qui croyaient qu'ils étaient intelligents, les Romains, dans leur gouverneur, C'est extraordinaire. Ça montre que les hommes peuvent se tromper et qu'ils n'ont pas vu en Jésus l'homme le plus parfait. Au point de vue philosophique, c'est terrible, hein, de voir que l'humanité n'a pas su reconnaître l'homme le plus parfait. Et là, renvoyé promener, en le condamnant à mort, comme un homme dangereux. Mais c'est notre philosophie, elle doit regarder Jésus. Et elle doit regarder Jésus en étant en contact avec lui par des récits. Sur Jésus. Et ça doit nous apprendre à connaître l'homme. Mais c'est pas parce que je suis croyant que je ne suis pas philosophe. Si je suis croyant, je dois être plus philosophe que des philosophes non-croyants. C'est-à-dire de rechercher la vérité. Le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité et qui l'aime, philosophe. Philosophia, qui aime la vérité. Il faut avoir cette conviction, vous voyez, au point de départ, vous ne l'avez pas, vous faites ça par obéissance. Oui. Mais au point de vue de formation philosophique, l'obéissance n'est pas suffisante. Et Jésus vous demande d'être intelligent. Il ne vous demande pas seulement d'être croyant. Il vous demande d'être un croyant intelligent. Et ça, en avoir la conviction. Intelligent, ça ne veut pas dire nécessairement connaître parfaitement la métaphysique, c'est pas ça. C'est connaître aussi l'éthique. Hein. C'est comprendre que l'amitié est la plus grande des choses humaines. Que parmi les choses humaines, les valeurs humaines, il y en a une qui est plus grande que toutes les autres. L'amitié. Pourquoi ? Parce que l'homme est l'animal le plus parfait. Ça, je crois que tout le monde peut l'accepter assez facilement. On est arrivé à un degré d'intelligence suffisante pour dire que l'homme est l'animal le plus parfait. Alors si l'homme est l'animal le plus parfait, aimer l'homme et le connaître, c'est ce qui est le plus parfait. Et donc, humainement, au point de vue philosophique, si je suis croyant, nous le sommes, la recherche philosophique doit être passionnante. Parce que, en tant que croyant, nous savons que Dieu aime l'homme. Dieu est l'ami de l'homme. Jésus nous a appris cela. Et si je ne vois pas que Jésus aime l'homme, je ne suis pas un croyant. Un croyant aime l'homme, c'est évident. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés bons. Il les a créés pour être ses amis. Et si de fait, ils ont chuté par orgueil, il les a repris. Tellement il les aimait. Il n'a pas dit, si c'est ça, allez, débrouillez-vous. Pas grand chose. Non, pas du tout. Il a repris. Et le premier amour de Dieu pour l'homme demeure toujours. Il n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Il n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Ce qui est le plus grand, c'est pas le premier amour de Dieu pour Adam et Ève. Ce qui est le plus grand, c'est l'amour de Dieu pour l'homme comme Jésus l'a aimé sur la croix. C'est là le plus grand amour. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. En ami, l'ami des hommes. Et dans toute amitié, il y a cet amour du Christ. Le chrétien, le catholique, donc le chrétien dans sa totalité, puisque le catholique, c'est pas autre chose que cela, doit comprendre la grandeur de l'homme et que ce qu'il y a de plus grand parmi toutes mes expériences, c'est l'expérience d'amitié. C'est pas ce qu'il y a de plus grand par rapport à mon amour vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas que cet amour d'amitié fasse écran à l'amour de Dieu. Mais tout de suite, après l'amour de Dieu, c'est l'amour des hommes dans l'amitié. Mais je crois que nous devons tous avoir cette conviction. C'est très important. Parce qu'au fond, si nous n'avons pas cette conviction, il y a quelque chose en nous, au point de vue humain, qui ne s'est pas développé. L'amitié permet à l'homme d'avoir la plus grande expérience qu'il peut avoir. Être l'ami de l'homme. Et découvrir, par le fait même, dans l'amitié, sa propre grandeur. C'est l'ami qui me fait découvrir ma propre grandeur. Parce qu'il n'y a que l'ami qui me comprend. Tous ceux qui ne sont pas mes amis ne me comprennent pas. Seul l'ami me comprend. Donc si quelqu'un n'est pas mon ami et qui parle de moi, mais il n'y comprend rien, il faut avoir cette conviction. Au fond, profonde, c'est très important, ça. On se rectifie dans nos expériences. Et on doit, dans nos expériences, comprendre que l'expérience de l'homme, de l'ami, c'est la plus grande. Alors, tout de suite, ça me fait aimer beaucoup Aristote. Ce qu'Aristote dit sur l'amitié, je crois qu'il n'y a rien d'aussi grand qui a été écrit au point de vue philosophique. C'est le traité de l'amitié dans l'éthique. Ça, il faut vite le lire. On peut le lire vite, mais on doit le lire, le relire. Et ceux qui savent le grec, le lire en grec. Ceux qui ne savent pas le grec, qu'ils essaient d'avoir une bonne traduction. Il y en a une quand même, qui est une bonne traduction. Le père Denis a traduit toute l'éthique. Et si vous voulez avoir une bonne traduction du traité de l'amitié, vous regardez sa traduction. C'est sûrement la meilleure, parce que nos traductions... Quelqu'un comme M. Bourgeois, le professeur Bourgeois dit « Ça devrait être l'œuvre première de la communauté Saint-Jean au point de vue philosophique. Donner une bonne traduction de l'éthique et de la métaphysique. » Parce que ce sont les deux livres qui peuvent nous aider. Troisième, ce sera la philosophie du vivant. Et un quatrième, ce sera la philosophie de la nature. Ce sont ces livres-là que nous devons lire. On ne va pas tout lire. Les traités sur les animaux, c'est très bien, c'est intéressant, c'est amusant. Et c'est intéressant. Mais ce n'est pas tellement ça qui forme. Mais dit que lire la philosophie de l'amitié, c'est un sommet au point de vue de la philosophie humaine. C'est un sommet. Et lire le livre Lambda et Theta et de la métaphysique, c'est un sommet métaphysique. Alors je crois que les sommets, nous devons les prendre tout de suite. Hein, parce que faut pas perdre de temps. Donc, la philosophie, elle part de l'expérience. De notre expérience. C'est pour ça, quand on reçoit d'Aristote quelques vérités, c'est très bien de la recevoir d'Aristote. Mais tant qu'on n'a pas l'expérience nous-mêmes, on n'est pas au niveau philosophique. La philosophie naît de l'expérience, de notre propre expérience. Alors, au point de départ, c'est sûr, on cède de ceux qui sont avant nous. Et on cède de quelqu'un comme Aristote, saint Thomas. On cède de ce qu'ils disent. Comment ils nous apprennent à être attentifs à nos expériences. Aristote nous rend attentifs à nos expériences. Il nous fait comprendre que nos expériences de la réalité et les expériences que nous avons en vie commune de l'homme, c'est quand même une richesse extraordinaire. De vivre avec des personnes qui, quand même, ont un grand idéal. De vivre avec des personnes qui comprennent la noblesse de l'homme, la grandeur de l'homme et de la femme. C'est un privilège énorme, ça. Et on est habitué, on trouve ça normal, oui, c'est normal. Mais c'est un privilège énorme. C'est quand même quelque chose d'étonnant de pouvoir avoir cette expérience qualitative. Et cela, nous devons être attentifs à cela pour pouvoir progresser. Et que notre intelligence se purifie, qu'elle progresse, pour qu'elle puisse être au service de ma foi. Je fais ma métaphysique, et je la fais le mieux possible. Connaissance de l'homme, connaissance de moi-même. Pour que le croyant qui est en moi puisse se servir de mon expérience humaine. Si mon expérience humaine n'est pas purifiée, décantée par la métaphysique, mon expérience humaine ne pourra pas être au service de la foi. Parce qu'alors, si elle est au service de la foi, ma foi prendra un mode humain et elle ne sera plus une véritable foi surnaturelle. Pour que ma foi puisse se servir de mes expériences humaines, il faut que ces expériences soient purifiées. Et ce soit dans un regard métaphysique, le regard de l'être en tant qu'être. C'est pour cela qu'il faut tout le temps s'éveiller à cela, pour comprendre que le point de vue de la métaphysique c'est quand même quelque chose qui, pour nous, nous permet d'être des serviteurs de Dieu. Des serviteurs au niveau même de notre foi. Qui nous permettra de communiquer ce trésor que nous avons, la foi, à ceux qui sont autour de nous. Sans diminuer ce trésor. Alors que si je reste à une connaissance philosophique, purement humaine, purement psychologique. Cette connaissance psychologique restant humaine diminuera la foi que je transmettrai aux autres. Je resterai à un niveau humain. Il faut que ma connaissance arrive à dépasser le point de vue humain. Mes expériences sont toujours humaines. Je n'attends pas une expérience fulgurante qui vient d'en haut. Non, il serait charismatique. Non, je prends mes expériences humaines. Je veux regarder dans ces expériences humaines ce qu'il y a d'être. Je les regarde sous le point de vue de l'être, en tant qu'être. Et bien comprendre ce point de vue que donne, que dit Aristote, le toon et on. Toon, ce qui est, en tant qu'il est. Et revenir toujours là-dessus. Tant que je ne suis pas dans ce regard de ce qui est en tant qu'être, je ne suis pas au niveau métaphysique. Or, au point de vue intelligence, nous pouvons tous comprendre que le point de vue du métaphysicien, ce n'est pas regarder telle expérience humaine que j'ai vécue passionnément. La passion que j'ai dans mon amour. Bon, je connais ça. Ça, il suffit de lire les romans. Et quand vous lisez les romans bien faits, vous découvrez ce que c'est. Quand vous découvrez la Genèse, vous voyez bien ce que c'est que l'amour humain, l'amour fraternel, et comme il se corrompt vite par la jalousie. Bon, je peux comprendre le mode humain de l'amour. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'amour, non pas en tant qu'humain, mais l'amour en tant qu'il me permet de dépasser le point de vue humain. De comprendre l'amour qui est directement ce qui me permet de saisir le bien en tant que bien. Le bien convertible avec l'être. C'est cela que la métaphysique doit m'aider. C'est une grosse purification, une terrible purification dans le monde d'aujourd'hui. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, au fond, on n'accepte que ce qui est humain. Le cinéma m'habitue à vivre de ce qui est humain, en tant qu'humain, pas ce qui est plus noble dans l'humain. Ce qui est plus grand dans l'humain, ça reste caché. C'est dans la conversation amicale que je peux le découvrir. Ce qu'il y a de plus humain en vous, vous le cachez, et vous ne pouvez le livrer qu'à un ami. Vous n'arrivez pas à pouvoir le dire quelquefois à un supérieur. Mais à l'ami, vous le dites, parce que lui comprendra. Le supérieur, en tant que supérieur, il vous comprend difficilement. Parce qu'il est supérieur à moi, donc c'est forcé. Il n'a pas la même vision. tandis que l'ami, ah, il est semblable. Il y a donc un regard commun. Il faut arriver dans l'amitié à découvrir l'amour. Il est au-delà de ce mode humain d'amitié. Alors, je rappelle toujours, et je dois tout le temps me rappeler ça, que quand je suis en philosophie, je vois le niveau physique. La philosophie commence par une philosophie de la nature, et la nature me fait regarder les réalités qui sont autour de moi. La philosophie s'intéresse à l'homme, l'homme qui est le vivant le plus parfait. Et la philosophie, en dernier lieu, regarde ce qui est en tant qu'être, en tant qu'il est. Il faut que nous arrivions à découvrir vraiment ces trois niveaux. La réalité physique, et comprendre que la science physique, c'est une connaissance des réalités physiques, mais ce n'est pas une connaissance philosophique. Là, c'est déjà très calé de voir ça. De voir qu'il y a deux connaissances possibles. Une connaissance scientifique et une connaissance philosophique. Dans la connaissance scientifique, tout doit, pour la connaissance du monde, tout dépend d'une expérimentation que je peux faire, que je peux noter. La connaissance philosophique part de l'expérience et non pas de l'expérimentation, de l'expérience. L'expérimentation, puisque c'est moi qui la refais, je refais une expérimentation et je peux très bien la louper et la refaire et être très attentif à toutes les conditions dans lesquelles je fais cette expérience. Je note tout ça. C'est une expérimentation. L'expérimentation n'est pas l'expérience. Alors, c'est ça qui est très important dès le point de départ. Dès le point de départ, il faut arriver à comprendre ce que vous avez appris en physique, en chimie, à base d'expérimentation. Et vous avez peut-être fait vous-même ces expérimentations dans telle et telle condition. Et puis l'expérience tout court, l'expérience que vous avez du soleil, l'expérience que vous avez de la pluie, du mauvais temps et du beau temps. Et vous arrivez à voir que le monde physique repose sur ces quatre éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et que ça, je les connais par une expérience très simple, directe, mais une expérience qui garde vivants les sensibles propres. Donc, dès le point de départ, il faut arriver à découvrir le point de départ différent de la philosophie et des sciences. La différence entre une expérimentation conscience et l'expérience du toucher, de la vision, qui regarde les sensibles propres. Arriver à distinguer les sensibles communs que je touche par l'expérimentation. Je les mesure. Mon expérimentation, c'est mesurer le réel. Mais je ne peux pas mesurer une qualité sensible parce qu'elle est indivisible. Une qualité sensible, je la sens. Je la vois. Je la touche. Mais je ne la mesure pas. Alors, il faut comprendre la différence entre la connaissance scientifique qui se fait toujours par mesurer. On mesure le réel selon une mesure donnée au point de départ pour chaque science. Et puis, cette expérience qui ne se transmet pas, je peux dire à chacun d'entre nous, mais nous avons l'expérience de notre toucher qui n'est pas celle de mon voisin. Je ne peux pas dire à mon voisin, j'ai touché, donc crois ça. Oui, je lui dis, il croit, mais n'a pas la sensation. Alors, il faut comprendre que l'homme est ainsi fait. Il a 5 modes d'expérience, point de départ. Et qu'il veut découvrir ce que c'est que le principe, le point de départ. Toute ma connaissance sensible, pour les sensibles propres, doit m'aider à découvrir ce qui est au point de départ, le principe. Voyez, les sensibles communs me permettent de découvrir les lois. Les sensibles propres sont le point de départ d'un autre type de connaissance, qui est la découverte des principes, la découverte des causes. La cause n'est pas la loi. Donc, arriver à discerner ce point de départ différent. Les sciences expérimentales me donnent des lois, les sciences. La philosophie me fait découvrir des principes. La différence de la loi est une relation. Le principe, il est le premier. Il ne se définit pas. La loi se définit puisque c'est une relation. Elle s'exprime. Tandis qu'au contraire, le principe, c'est quelque chose que je saisis, que je découvre. Il est au-delà de la définition. Et la manière dont je saisis ces principes, c'est justement qu'est-ce qui est premier dans l'ordre matériel, fondamental. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la détermination. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'efficience? Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la finalité? Alors, cette découverte des principes, c'est toute la philosophie d'Aristote. Par l'induction, je passe du sensible au principe. Et je le fais au niveau nature, au niveau du vivant, au niveau de l'être. Donc la première question qui va se poser au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, quels sont les principes de l'être en tant qu'être que je peux saisir? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être que je peux saisir? Or, bon, j'ai établi la philosophie de la nature, j'ai tout de suite compris que toutes les réalités sensibles qui sont autour de moi impliquent une certaine détermination, une certaine qualité, détermination, et le point de vue matériel. La recherche de la cause matérielle, ce en quoi est une réalité sensible, ce en quoi. Or, il n'y a pas de recherche de causalité matérielle pour ce qui est en tant qu'être. C'est la première constatation que je dois faire dans ma métaphysique, puisque je regarde tout du point de vue de l'être en tant qu'être. Première question, en quoi est l'être? Ce qui est en tant qu'être. Ce qui est en tant qu'être détermine. L'être détermine tout ce que je peux saisir du point de vue de l'être implique toujours une détermination. Donc, il n'y a pas de recherche de causalité matérielle en métaphysique. En métaphysique de la recherche de l'être en tant qu'être. La matière n'est jamais première dans l'être. La matière, la causalité matérielle, c'est ce en quoi. De la causalité matérielle. Oui, ça c'est très important pour nous, parce que ça montre que le marxisme, qui veut chercher ce qu'il y a de premier en la matière, n'est pas au niveau de l'être. Il est au niveau du mouvement. Tout ce qui est matériel est toujours ce qui est mu vers quelque chose de plus parfait. Ce qui est mu, c'est toujours quelque chose qui cherche sa perfection. Or, au point de vue de ce qui est en tant qu'être, il n'y a pas de découverte de premier dans l'ordre de la recherche de la cause matérielle. La cause matérielle n'est jamais première au point de vue de l'être. Elle est toujours seconde. Donc, il n'y a pas de premier dans la matière. Ça, c'est la première grande affirmation au point de vue métaphysique. Et elle est très importante aujourd'hui. Parce que ça montre tout de suite que toutes les recherches des réalités matérielles en tant que matérielles ne sont pas métaphysiques. La métaphysique est au-delà, parce que l'être en tant qu'être est déterminé en tant que matière. Il est apte à être déterminé. Il est capable d'être déterminé, mais il ne l'est pas. Donc, au point de vue métaphysique, il n'y a pas de recherche de causalité matérielle. L'être en tant qu'être. n'est pas matière. La matière, c'est ce qui peut être transformé, ce qui peut changer. Or, ce qui peut changer, ce qui peut être transformé, est toujours second. Il n'est pas par lui-même cause son changement. C'est un autre qui est en acte, qui le change. Et ceci, c'est l'expérience même que j'ai de tout ce qui est mu. Tout ce qui est mu par un autre. Tout ce qui est mu par un autre. Et ce qui est mu n'est pas mu par lui-même. Il est en puissance. Il est indéterminé. La première chose importante qu'il faut, au point de vue métaphysique, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de recherche de premier dans la cause matérielle au niveau de l'être. L'être comme tel est déterminé et implique une détermination. Donc, la métaphysique ne recherchera pas ce qui est premier dans la cause matérielle. Parce que il n'y a pas de premier dans la cause matérielle. La cause matérielle est nécessairement dépendante d'un autre. Elle n'existe que grâce à un autre. Parce que la matière, c'est ce qui n'est pas déterminé par soi. C'est ce qui peut être transformé, mais qui n'est pas transformé par lui-même. C'est par un autre. La première recherche métaphysique sera donc le point de vue de la détermination de l'être. L'être en tant qu'être est déterminé. La causalité formelle. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'être au point de vue de sa détermination ? C'est la première question. La première détermination de l'être du côté cause formelle. Alors, c'est là où je dois montrer que toutes les réalités que j'expérimente ont des déterminations multiples. C'est la première constatation que donne Aristote quand il dit que l'être se dit de multiples façons. Pour la cause, de multiples façons. L'être, dans les réalités que je vois, se donne dans une détermination qualitative. La qualité, c'est l'être. Dans une détermination purement relative, dans une détermination quantitative. Et j'ai cette première découverte des déterminations multiples de l'être. L'être se dit de multiples.